La personne et les médias, c'est le module numéro 6 à l'Institut Philanthropos et c'est un module animé par monsieur Ernesto Rossi. Bonjour.
Bonjour.
Monsieur Ernesto Rossi, vous êtes d'origine italienne, vous êtes juriste de formation, vous avez aussi suivi des cours de théologie, vous avez fait pas mal de recherches à titre personnel dans le domaine de la théologie, vous avez aussi enseigné à la faculté de théologie de Lugano en éthique et communication. Votre vie professionnelle, par contre, a été dans le monde de l'entreprise, l'entreprise familiale. Vous avez assumé un certain nombre de responsabilités, une grosse entreprise. Et puis, vous avez eu, par votre vie professionnelle d'abord, et puis par votre vie aussi d'homme de notre époque, pas mal de liens aux médias. Vous avez aussi connu un certain nombre de personnes dans cet univers, plus une analyse par intérêt personnel. Tout ça vous amène à nous proposer une réflexion, tout un parcours, dans ce cadre donc du module « La personne et les médias » à l'Institut Philanthropos. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé quand on vous a parlé de ce thème et quand on vous a demandé de venir intervenir sur « La personne et les médias » ?
Bien, je pourrais dire que la première question qui m'a été adressée d'ailleurs par le père Nicolas Butet était de réfléchir sur l'image de l'homme que l'on reçoit au travers des médias. C'est vrai que les médias aujourd'hui conditionnent pratiquement toute l'image que nous avons et nous recevons du monde. L'argument est quand même de taille. J'ai pensé que c'était peut-être plus modeste, aussi plus apte à mes compétences, de renverser un petit peu la question et dire quelle est l'image d'homme, l'image de la réalité que nous avons la chance ou la possibilité de recevoir à travers les médias en se posant alors là la question qui devrait être à la base de toute réflexion éthique et autres, qu'est-ce que c'est les médias, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Alors, à partir de cette question-là, on pourrait peut-être avoir une idée de l'image qu'on peut y chercher.
Dans notre monde contemporain, on est envahi de médias. Il y a bien sûr la télévision qu'on accuse d'être la source de tous les maux. En tout cas, on l'a fait. Il y a tous les médias électroniques aujourd'hui. Vous aussi, en tant que père de famille, vous avez le souci de transmettre des valeurs à vos enfants, à vos petits-enfants. Vous avez ce souci de l'éducation. Qu'est-ce que les médias vont nous apporter là-dedans et quels sont les dangers qu'ils présentent ?
Oui, d'abord, il y a médias et médias, et évidemment, l'univers des médias est assez vaste et varié. L'histoire de la communication médiatique comme nous la connaissons aujourd'hui n'est vraiment pas très vieille. Elle commence finalement avec la radio, peut-être avec le cinéma, mais il faut dire que probablement la grande percée technologique, qui est celle qui conditionne notre perception aujourd'hui des médias, était certainement l'invention de l'écran et surtout de l'écran de télévision, dont les enfants sont les écrans des ordinateurs et des téléphones portables. Et je pense qu'il faut tout d'abord s'interroger sur ce que cet instrument a apporté. Comme toujours dans l'histoire de l'homme, c'est l'invention de grands instruments qui a fini par changer la société et la civilisation. C'est un instrument qui a matériellement envahi nos vies. Nous le savons tous très bien. Il y a au moins un poste de télévision dans chaque famille et je ne sais pas combien de téléphones portables et d'ordinateurs. Donc ça fait vraiment maintenant partie de notre vie. Probablement nous avons oublié un petit peu, c'est le point de départ de nos réflexions, le nom de cet instrument et ce que ce nom signifie. On l'appelle l'écran, or écran veut dire séparation, protection, et pourtant on nous dit que cet instrument sert à mettre en contact le monde entier, le globaliser. Nous sommes maintenant présents partout, nous sommes en communication avec tous, en tout endroit, et très rapidement, de façon immédiate. Est-ce qu'il n'y a pas là-dessus peut-être un paradoxe ou de toute façon une question à se poser ? Notre expérience quotidienne nous fait quand même percevoir le fait que les utilisateurs de tous ces instruments de communication ont un certain penchant à l'isolement et sont même invités à s'isoler. On peut tout faire depuis sa chambre, depuis sa chaise. Il n'y a plus besoin de sortir, plus besoin d'aller au café, plus besoin d'aller au supermarché. On n'a qu'à cliquer sur une petite icône et puis on commande, on parle, on envoie des messages. Tout peut se faire à la limite, tendanciellement, sans quitter sa chaise. Est-ce que cela veut dire qu'on est en relation avec tout le monde ou qu'on n'est plus en relation avec personne? Ça c'est une première grande question qu'il faut se poser et qui dérive de la caractéristique essentielle, même technique, de l'instrument que nous utilisons. Et puis il nous faut nous demander comment agit cet instrument, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il nous offre, comment est-ce qu'il parle, quel est le langage de cette relation qui apparemment nous permet d'établir. Là aussi, la réponse, évidemment, est très facile en premier lieu. Il s'agit du langage des images. Le langage des images étant un des grands langages de toute l'histoire de l'humanité. Mais il a peut-être, dans ce cas, quelques notes particulières qu'il faut quand même savoir analyser, regarder pour savoir quelles sont les possibilités effectives d'expression que ce langage nous offre.
Alors, Monsieur Ernesto Rossi, on va revenir au langage des images. Juste avant, vous avez évoqué d'autres questions. Par exemple, est-ce qu'on ne demande pas aux médias quelque chose pour lequel ils ne sont pas faits? Vous nous avez parlé aussi du langage publicitaire, par exemple, qui ne peut peut-être pas s'adapter à tous les sujets. On peut se demander aussi le côté éducatif des médias. Autant de thèmes.
Oui, certainement. C'était d'ailleurs une des premières questions qu'on se pose quand on considère cet univers des médias. C'est vrai que nous avons tous tendance à nous plaindre des désastres que la télévision fait dans nos vies, et il y en a. Est-ce que vraiment la télévision porte la responsabilité de tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Dans le jeu des communications, il y a probablement plusieurs acteurs et plusieurs responsabilités. Et tout d'abord, quand on utilise un instrument, il faut savoir que chaque instrument est fait pour quelque chose et pas pour n'importe quoi. Donc il faut d'abord savoir à quoi sert effectivement l'instrument de la télévision, l'instrument de l'écran, et ne pas lui demander quelque chose de trop ou de différent de ce qu'il peut nous offrir. Voir quelle est la limite de son langage. C'est vrai qu'il semblerait que le style publicitaire soit le plus adapté à la communication par écran. De fait, on sait que la télévision a depuis tout de suite été considérée comme le moyen, le support principal publicitaire. Pourquoi ? Il faut quand même aussi s'interroger sur ce qu'est le langage publicitaire. Et si on le regarde un peu de près, on peut tout de suite voir que le langage publicitaire constitue certainement un appel, une proposition de plaisir lié à certains produits qu'on veut commercialiser. Mais si on compare le langage qui s'établit de plus en plus dans les autres secteurs de la vie civile et sociale, on s'aperçoit que ce langage a une forte tendance à s'homogénéiser au langage publicitaire. Dans l'arène politique, maintenant, c'est de toute évidence. On ne fait que vendre des candidats avec des arguments qui souvent sont les mêmes à droite et à gauche, qui essayent d'attirer beaucoup plus par le volume de la voix que par la solidité des arguments. De nouveau, il faut se demander pourquoi. C'est vrai que l'instrument de l'écran, par sa percée technologique, a réalisé deux choses d'une importance fondamentale. L'une, la représentation du mouvement. Et ça, c'est déjà des images en mouvement, où en se mouvant parmi les images, on crée des histoires. Et ça, c'est la première fois qu'on peut vraiment représenter en mouvement des histoires comme si elles étaient réelles, ou les histoires réelles elles-mêmes. Et puis l'autre grande percée, c'est l'énorme diffusion. C'est un instrument par lequel on peut maintenant atteindre n'importe quel coin du globe. Ce qui veut dire aussi, de nouveau, qu'on n'a plus besoin d'aller au café pour s'informer. Plus besoin de rencontrer les autres, d'aller sur la place. Il suffit de rester derrière sa chaise et on reçoit tout ce qu'on veut recevoir du monde. Bon, ce sont deux caractéristiques qui font que cet instrument présente une utilité formidable dans certains domaines. Dans le domaine commercial, c'est tout à fait évident. Ça remplace, du moins en partie, ce qu'étaient autrefois les grandes foires. Aux grandes foires, c'était tout le monde qui était convoqué à un lieu où on présentait tous les produits du monde connu et qui devaient être apportés sur place. Les grandes foires du Moyen-Âge avaient cette fonction-là. Avec l'écran, on n'a plus besoin de transporter les produits et on n'a plus besoin de convoquer les gens. On voit l'image du produit dans tous les ménages. Donc c'est une foire permanente, exportation permanente. Ceci a peut-être un aspect qui est un des aspects troublants dans d'autres secteurs de la communication, c'est l'accent mis sur la visibilité. La clé de la réussite en domaine commercial, de la publicité commerciale, c'est évidemment la facilité de rendre les choses visibles partout. Mais alors on commence à jouer avec la visibilité elle-même. Et voilà que, par exemple, dans l'arène politique, on essaie de se faire voir à la télévision, plutôt que de convaincre par des actions ou des arguments. C'est la visibilité qui compte. En Italie, il y a un petit livre d'un auteur satirique fameux qui s'intitule « Visibilité zéro » et qui raconte les déboires du pauvre député qui n'arrive jamais à se faire voir. C'est cet accent sur la visibilité qui, inévitablement, par l'accent même sur la visibilité, par la quantité et la possibilité de répétition de cette visibilité, risque de nous renfermer sur l'exercice sensible, matériel de notre organe de la vue, et de devenir un exercice qui devient la fin à lui-même et qui ne nous sert plus pour aller plus loin.
Tendance aussi au voyeurisme.
Bon, les cas de voyeurisme aujourd'hui deviennent de plus en plus évidents à la télévision. Les spectacles, les jeux de type Loft Stories, Grand Frère, etc. montrent une tendance au voyeurisme et à l'exhibitionnisme qui est assez étonnant. Et qui sait, peut-être c'est effectivement la réaction à un manque de relations réelles dans la vie qu'on avait quand, pour être en relation avec les autres, il fallait physiquement et réellement aller à leur rencontre et les rencontrer sur les lieux publics ou dans les maisons. Il y a beaucoup de choses que la communication d'aujourd'hui a oblitérées. La lecture à haute voix en famille, par exemple. La lecture du journal. Maintenant, chacun regarde dans son coin pour son compte ce qu'il veut. On ne se rencontre plus sur les lieux où on communiquait autrefois. Il y a peut-être aussi dans tout ça un danger, mais là, alors, danger social, de isolement, quand on est renvoyé chacun à son propre espace individuel et les repères sociaux sont mis en cause. En particulier, nous le voyons très bien à travers la télévision, surtout maintenant à travers Internet, nous voyons se créer des agrégations, des mouvements qui sont probablement assez éphémères, momentanés peut-être, mais qui peuvent être mobilisés très rapidement et qui se posent explicitement en alternative aux agrégations traditionnelles, par exemple aux partis politiques. Aujourd'hui, les associations, les réseaux, les web veulent être représentés au niveau politique, à côté ou en alternative des partis. C'est tout un système de représentation et de jeu de vie démocratique qui est en train de changer.
Alors, si le langage est au service de la communication, bien sûr, en vue de la communion ou de la communauté, c'est ce que vous dites, quand le langage devient virtuel, on s'échappe de la réalité, où est-ce qu'on en est et quels sont les enjeux qui sont liés à ça?
Oui, quand le langage devient virtuel, la relation devient virtuelle elle aussi. Ça peut ne pas être un désastre, évidemment, parce qu'il y a quand même relation, il y a tout un nouveau jeu avec les images que nous pouvons maîtriser et qui peut être une occasion pour nous-mêmes d'approfondir nos propres sentiments, notre propre vision du monde, etc. Il est clair que la communauté virtuelle ne pourra jamais remplacer une communauté réelle. J'ai d'ailleurs eu un de mes étudiants à Lugano qui a fait un petit mémoire sur ce sujet. Il a parfaitement raison. J'ai eu une ou deux réponses quelquefois qui montrent que le contrôle de la communauté virtuelle par la communauté réelle est effectivement une clé de défense et d'interprétation. Elle est évidemment possible à un niveau local. Une télévision locale, par exemple, aura un contrôle immédiat dans la communauté locale. Comme avait dit, ceux qui parlent à notre télévision ne peuvent pas nous raconter n'importe quoi, puisque de toute façon nous les rencontrons après au café ou dans la rue. Alors là, la communication virtuelle retombe, si on veut, plutôt au niveau de l'utilité de l'instrument, et reste quand même au service d'une communauté réelle. Paradoxalement, j'ai eu un petit peu le même genre de réaction par un ami du Congo, où le réseau local, géographiquement, reste quand même immense, mais apparemment le système de communication réelle et vocale traditionnel reste encore particulièrement efficace et arrive aussi à contrôler la vérité de ce qui est transmis sur les lieux de la communication virtuelle. Dans des communautés plus vastes ou à un niveau international ou même à un niveau global, c'est évident que la possibilité de contrôle est pratiquement nulle et qu'on est parfaitement exposé à être manipulé par une information dirigée, sélectionnée, imparfaite, insuffisante, et qui finit par n'avoir pas beaucoup de rapport avec la situation réelle. Et l'ennui, c'est que nous nous persuadons de plus en plus que c'est là que nous avons la vision du monde et que le monde est ce que les médias nous montrent. Et alors toute notre vision du monde, de l'existence, se limite à cette vision-là. Avec un grave danger, puisque un des aspects du langage par image étant l'aspect émotionnel, forcément, c'est un langage qui ne parle pas directement à l'intellect, mais beaucoup plus à la sensibilité, donc il suit les lois de l'émotion, donc il doit présenter quelque chose qui choque, qui frappe notre émotion, de là à privilégier les situations douloureuses, de souffrance, de conflit, d'horreur, de désastre, et il n'y a qu'un pas, et qui est très souvent franchi. Il suffit de regarder la proportion de mauvaises nouvelles au journal télévisé. Et cela peut facilement nous amener à penser que la vision réelle du monde est une vision où tout est mal, où tout est un désastre, où il n'y a pas d'espoir, de toute façon il n'y a rien à faire. Et c'est très dangereux parce que ça peut provoquer une sorte d'indifférence ou de démoralisation généralisée. Et sur une population démoralisée et indifférente, il est très facile de s'imposer un jour ou l'autre si quelqu'un réussit à maîtriser vraiment ce network, ce réseau, ce web qui a effectivement une diffusion et une puissance potentiellement explosive.
Alors en face d'une impossibilité de contrôle, le public est dessaisi complètement devant la masse des médias qui sont proposés. Qu'est-ce qu'il faut ? À une époque, une certaine censure réussissait à gérer des choses. Aujourd'hui, on sent que c'est complètement dépassé. Quelle est la solution pour pas se laisser totalement manipuler ?
Oui, d'abord, il faut dire que toute la censure est parfaitement dépassée aujourd'hui. Il suffit d'aller sur Internet, on voit qu'on n'arrive pas à censurer, on arrive à fermer, rien du tout. De toute façon, c'est inutile. Et puis, la censure elle-même, surtout dans un monde comme le nôtre, présente des dangers de manipulation que nous connaissons malheureusement très bien. Il faudrait renforcer les structures intellectuelles, renforcer l'éducation, renforcer le sens de responsabilité de tous les acteurs du jeu de la communication. Là encore, on est un trait de notre époque et qui vient probablement aussi de l'habitude au langage simplifié, spectaculaire de la communication. C'est l'habitude de chercher des boucs émissaires. On trouve un bouc émissaire particulièrement visible, on lui jette dessus tous les les fautes de ce monde et on se libère de sa propre responsabilité. Alors que nous savons très bien que la réalité est extrêmement complexe et qu'il n'y a pas aujourd'hui un homme qui à lui seul puisse effectivement influencer la marche du monde. Dans le jeu, il faut encore une fois, avant d'attaquer les problèmes éthiques, se poser les problèmes de substance, les problèmes ontologiques, se demander qu'est-ce que c'est, cette communication, qui sont les acteurs de cette communication et comment se répartissent alors les responsabilités. Parce que il y a pas mal de monde qui se trouve engagé et impliqué contre sa volonté ou par sa volonté dans ce jeu. Les images, commencées par leur définition, ont toujours un modèle, elles sont toujours tirées de quelqu'un ou de quelque chose. Le premier responsable en est le propriétaire de cette image. Est-ce qu'il défend son propre secret, sa propre identité? Est-ce qu'il veut par contre transmettre une image et à quel but? Puis il y a la responsabilité de ce qu'on a appelé les chasseurs d'images. Ils vont chercher eux-mêmes ce que l'observateur normal n'est pas en mesure de voir. Donc il doit découvrir, c'est quelqu'un qui doit découvrir, qui doit regarder ce qui se cache sous les apparences, qui doit très souvent démasquer. C'est d'ailleurs un réflexe conditionné des hommes, des journalistes, des hommes de télévision, que celui d'essayer de démasquer. Dès qu'ils ont quelqu'un devant eux, ils doivent le mettre sous pression pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière la façade. Il y a la responsabilité des diffuseurs, vraiment. Alors là, les chaînes de diffusion d'images, quelles images ils choisissent, quelles images ils diffusent. Est-ce qu'il se préoccupe des destinataires de ces images? On a défini la communication contemporaine comme la proposition de tout à tous. Est-ce que cela veut dire que le diffuseur n'a plus aucune responsabilité et qu'il peut diffuser tout et n'importe quoi? Et puis, il y a la responsabilité à laquelle nous ne faisons pas suffisamment attention probablement, et c'est notre propre responsabilité de lecteur. L'utilisateur final du jeu. Nous nous prenons nous-mêmes au jeu, mais nous devons savoir d'abord que nous exerçons nous aussi notre regard sur les images qui nous sont transmises. Dans quel but nous les regardons? Il y a certains jeux que nous savons, certains environnements extrêmement pathologiques et morbides qui envahissent la scène de la communication. On ne peut pas accuser seulement ceux qui diffusent ces images. Il y a quand même quelqu'un qui les reçoit, qui les recherche. Donc nous avons aussi une responsabilité devant ces images. Elles nous invitent à quelque chose, elles nous invitent à des rencontres, elles nous invitent à des réflexions. Elles nous posent surtout la question, qu'est-ce que je peux tirer de ces images? Elles sont pas tout dans ma vie. Est-ce que vraiment je me laisse promener, je me laisse posséder par ces images, ou est-ce que je vais quand même essayer de développer d'autres relations, d'autres langages, d'autres approfondissements? Très souvent, nous nous laissons prendre au jeu aussi par fatigue, par paresse. Combien de fois, combien de abdications de parents vis-à-vis de l'éducation de leurs enfants, casés devant leur télévision pour qu'ils se tiennent tranquilles, bien, combien de ces abdications-là sont malheureusement parfaitement compréhensibles par la fatigue, les engagements, le travail, tout ce que les parents ont à assumer dans un monde qui n'est pas si facile que ça. Mais cela pose une question terrible, parce que l'éducation dès la première enfance des enfants derrière un écran, devant un écran, est un enjeu de première importance. Que faire? Interdire. Certaines mesures d'interdiction et de protection pour les enfants, c'est un droit qu'ils ont eux-mêmes. Quand on veut faire grandir une plante, on ne l'expose pas aux intempéries pour qu'elle se renforce. On la protège pour qu'elle se développe. Donc il faut effectivement, à ce niveau-là, on pourrait parler d'une certaine censure, si on veut. Les conseils, les classifications pour mineurs ou pas pour mineurs, etc., sont une sorte d'autocensure, une sorte de régulation qui est effectivement nécessaire. Le rôle des parents et de l'école est absolument primordial, encore une fois. Et puis peut-être il faut quand même aussi faire confiance. Les enfants ont quand même eux aussi une force, une capacité de jugement, une capacité critique qu'il faut surtout pas étouffer et qu'ils vont développer en assumant eux-mêmes leurs difficultés.
Une invitation donc à une utilisation très responsable effectivement des médias qui nous sont proposés. Ernesto Rossi, on a beaucoup parlé d'images dans ce module qui est lié aux relations entre la personne et les médias. Peut-être un petit mot sur ce thème, l'homme à l'image de Dieu.
Oui, on a abordé un peu ce problème à cause d'une suggestion que j'ai faite d'étudier, de lire un peu les ouvrages, les pensées de Meister Eckhart en cette matière. Il est évident qu'un des points assez fondamentaux de la révélation de la doctrine chrétienne est celle de l'homme fait à l'image de Dieu. On voit très bien qu'on n'échappe pas à l'image. Ça commence dès notre création. C'est intéressant de noter, comme l'a noté entre autres par exemple le professeur Wackernagel, que Meister Eckhart distingue très nettement deux notions ou deux valeurs de l'image. L'image positive qui est précisément l'image de Dieu et qui porte avec soi l'invitation à l'homme, l'exhortation à l'homme de se faire, de réaliser en lui-même cette image de Dieu à laquelle il a été créé. Il y a donc une invitation à l'imitation, disons la croissance en nous d'une image vivante qui a été plaquée, en quelque sorte, si on veut dire, sur notre essence, notre existence elle-même. Et puis il y a l'autre valence de l'image qui est, par contre, l'image des choses créées, y compris l'homme. Le danger du jeu et de la relation à l'image des créatures, alors là, c'est le danger d'entrer dans un jeu de possession. L'image, jouer avec l'image d'une chose veut dire en quelque sorte jouer avec la chose elle-même, comme l'a bien su la magie depuis toujours. Et la tentation de magie, la tentation d'exercer le pouvoir sur quelqu'un d'autre, sur les choses, est une tentation qui continue tranquillement à exister aujourd'hui. Alors, évidemment, l'appel, disons l'invitation d'un mystique tel que et théologien tel que Eckhart, est qu'il faut se libérer de ce genre de relation, non pas se libérer de l'image des créatures, parce que c'est une image qui nous conduit vers les créatures, mais de nous libérer de cette relation à l'image qui serait interprétée comme une voie pour entrer en possession des autres. Et malheureusement, cette relation est certainement aussi à la base de certains jeux morbides qui envahissent notre univers de la communication. Il y a une illusion très très forte dans l'instrument même de la communication. On a dit qu'il s'appelle écran. Il fait écran, effectivement. Il protège. Ce qui, plus ou moins consciemment, peut nous convaincre que nous pouvons jouer avec les choses sans en fait leur faire du mal, ni nous faire du mal à nous-mêmes. Nous pouvons très bien assister à une tuerie, à une guerre, à la violence, en éprouver les émotions, en sachant très bien qu'elle ne nous touchera pas. Donc nous n'atteignons pas la véritable réalité. En échange, nous pouvons être portés à voler des images à des situations de souffrance, des situations de violence et de conflit, en perçant le mystère lui-même de la souffrance, le manque de respect total pour l'être souffrant, et nous en tirant des images pour notre propre satisfaction, une satisfaction assez douteuse, mais quand même une satisfaction de notre jeu visuel, de notre jeu d'images. Et ça, ce sont des dangers dont il faut se rendre compte. Et c'est là, encore une fois, toute la question de la formation, de l'éducation, de la réflexion. Et c'est probablement la nécessité d'une vie qui sache faire la part des choses, qui sache qu'il existe autre chose que le jeu de la communication dans ce monde. Beaucoup d'autres choses, heureusement. Et qui sont beaucoup plus réelles, qui peuvent contribuer beaucoup plus directement à la croissance de notre personnalité.
Monsieur Rossi, je vous remercie.